19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis auditeurs. Quel plaisir de vous retrouver, de démarrer la semaine avec vous. Vous êtes toujours en vacances, enfin la région parisienne plutôt, hein, et je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Mais surtout, n'oubliez pas, vous savez, l'application vous suit partout. Partout, elle est là. Elle est tamponnée. Évidemment, en vous. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission. Nous allons nous intéresser, vous savez quoi, tout d'abord à cet appel à la marche. L'appel à la marche, vous savez, figurez-vous, du 21 avril. C'est avec, dans une poignée de minutes, avec justement Amal Bentoussi. Vous savez, Amal Bentoussi, celle qui ne lâche jamais rien, justement, qui est sur tous les fronts. Eh bien, elle sera avec nous dans une poignée de minutes, justement, pour parler de cette fameuse marche. Elle est organisatrice ou co-organisatrice, me semble-t-il, de mémoire. Ensuite, nous parlerons avec les débatteurs influenceurs. De plusieurs sujets. D'abord, nous reviendrons longuement sur cette attaque de ce week-end de l'Iran contre Israël. Et figurez-vous que tout le monde craint et redoute l'escalade. Washington a déjà donné le ton. Ils ne veulent pas évidemment suivre Israël si jamais ils ripostent, mais surtout, vous savez quoi ? Eh bien, en ce moment même, la communauté internationale et puis le monde entier regarde ça avec beaucoup d'attention parce que l'escalade, on n'est pas très très loin. Nous reviendrons sur le fameux meeting qui s'est tenu à Montpellier. On parle des européennes et la tête de liste, Manon Aubry. Eh bien, figurez-vous qu'elle a fait parler d'elle depuis maintenant ce week-end. Tout simplement parce que une partie de la foule a scandé « Israël, assassin, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi ». Mais ça a fait beaucoup jaser. Nous reviendrons sur ce sujet. Ensuite, après, les OQTF. Vous savez que c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet parfois même politique de campagne. Eh bien, beaucoup ont été choqués parce que un jeune Algérien de 18 ans sous OQTF a été arrêté. On lui a trouvé une arme et il a été, vous savez quoi, tout simplement libéré après sa garde à vue. Et beaucoup s'interrogent sur ce qui se passe et notamment à quoi joue aujourd'hui l'exécutif. Voilà, ensuite après c'est le Quoi de Neuf. Le Quoi de Neuf, vous savez, c'est avec Michel Taube comme chaque lundi. Éditorialiste, mais aussi le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Sans oublier, vous, au 01 53 48 3000, c'est votre numéro. Et vous nous appelez en toute liberté d'expression pour nous livrer votre point de vue. Solal est à la réalisation, comme tous les soirs. C'est Solalou. Ça va, Solalou ? Respect. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Amal Bentoussi. Bonjour Amal Bentoussi. Comment ça va? Vous savez, ça fait plaisir de vous avoir parce que vous savez quoi? Tout d'abord, alors vous êtes militante, femme engagée, vous êtes fondatrice de plusieurs mouvements, hein, je le sais. Quelle casquette doit-on retenir ce soir?
Alors la casquette qu'on doit retenir, c'est celle de maman qui est particulièrement touchée par le sort de nos enfants en France. Même si ce n'est pas la généralité, mais c'est très inquiétant dans ce climat actuel anxiogène et raciste et islamophobe. Donc l'idée de cette marche, vraiment...
On va en parler mal, Bentoussi, c'est justement, vous dites que vous êtes inquiète pour nos enfants évidemment qui ont trouvé une série de faits divers, mais surtout on a assisté, vous savez, depuis plusieurs jours maintenant, notamment des enfants qui sont véritablement en danger. Alors d'abord, je voudrais vous poser cette question, parce que c'est vrai, le 21 avril, il y a une grande marche contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants de Barbès à République. Ça se passe à 14h. Alors d'abord, les enfants sont en danger. Je voudrais vous poser cette première question. Pourquoi vous dites qu'ils sont en danger? Ils l'ont toujours été depuis un peu plus de 30 ans, 40 ans. Pourquoi aujourd'hui ils le seront plus qu'avant, ma chère Amal Bentoussi?
Écoutez, nous, le constat qu'on fait depuis quelques années, c'est qu'il y a une nette augmentation des discours racistes, islamophobes. Quand vous avez, par exemple, on commence l'année sur la question des abayas, par exemple, qui touchent des jeunes filles, en particulier collégiennes, lycéennes. On ne se rend pas compte en fait des dégâts psychologiques que ça peut engendrer chez certains enfants, chez certains lycéens. Et ça, on n'en tient pas compte. Et à quoi on assiste au quotidien, c'est un discours raciste, islamophobe, des lois liberticides et sécuritaires qui visent toujours les mêmes, comme si tous les maux de la société c'était à cause des banlieusards ou c'était à cause des musulmans. Et ça, ça ne peut plus durer. On doit se soulever, on doit prendre en considération cette question-là, ce racisme systémique et ce discours dominant à travers les médias dominants qui, au quotidien, pointent du doigt nos enfants comme s'ils étaient des potentiels ennemis de l'intérieur. Et ça, ce n'est plus possible.
D'ailleurs, Amal Bentoussi, vous listez toute une série d'événements. Vous dites que les jeunes sont victimes de crimes policiers, judiciaires et carcéraux. Vous dites le 3 décembre 2023, nous fêtions les 40 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Mmh. Et puis là, vous faites des citations. 13 mars 2024, Aubervilliers. Wanis et Ibrahim. 9 et 10 décembre 2023, HL. Deux adolescents de quartier, Théodore et Justine. Et Justin, pardon. 30 novembre 2023. 14 novembre 2023. 18 octobre 2023, 7 octobre 2023, 27 juin 2023, 6 décembre 2018, etc., etc. Pourquoi vous, volontairement, vous avez listé comme ça une série, évidemment, d'événements? C'était pour appuyer quoi, au juste?
Bah, c'est la conséquence aussi des lois liberticides et sécuritaires qui ont été votées sans que pour autant des parlementaires s'indignent sur... par exemple, je prends en compte l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure qui a fait des dégâts. Aujourd'hui, ce qui touche les quartiers populaires, ce qui touche, par exemple, sur le refus d'obtempérer, c'est quelque chose qui est expérimenté, donc qui a été expérimenté dans les quartiers, mais aujourd'hui, on le voit bien, on assiste à cette reproduction pour l'ensemble de la population. Donc on doit s'en inquiéter. Ça ne touche plus uniquement les quartiers ou nos enfants, mais ça s'étend aussi à toute la population. Donc on doit s'en inquiéter. Et les chiffres sont importants puisque on le constate depuis février 2017, depuis que cette loi a été promulguée, on recense une nette augmentation par tir mortel des policiers à la suite de cette loi. Cette loi qui est floue et qui doit être abrogée. Donc, j'étais bien évidemment l'une des premières à dénoncer cette loi, sans pour autant que les gens ne s'y intéressent. Il aura fallu la mort de trop, celle de Naël, qui a retourné la France avec les révoltes des quartiers.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Amal Bentoussi, justement, qu'en France, quand on est habitant des quartiers populaires, vous le dites vous-même, afro-descendants, musulmans, etc., etc., que forcément, on parle de stigmatisation, on parle de danger, on parle d'être en marge de la société. Est-ce que vous êtes convaincu, vous avez le sentiment, je vous pose vraiment la question, hein, que lorsqu'on est issu des quartiers populaires, on est condamné forcément à cela?
On n'est pas condamné à l'échec, bien évidemment. Je pourrais reprendre la situation.
Ou assigné à résidence, effectivement.
Mais ce qui est certain, c'est que ces enfants-là, dans leur pays, qui est la France, ne se sentent pas français. Comment on l'explique? C'est aussi ce discours omniprésent à travers les médias, ces politiques politiciennes, de façon à faire oublier aux Français ce qui est la priorité, par exemple l'enseignement, les budgets qui ont été sucrés à l'école. Et ça, c'est scandaleux, en fait. C'est scandaleux de se comporter de cette façon-là. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences, que ce soit au niveau de la police, qui se croit en roue libre, qui se croit tout permis et qui va jusqu'à tirer sur des gamins pour un refus d'obtempérer. Il y a des débordements à chaque fois qu'il y a un contrôle. Je ne suis pas la seule à le dire, c'est la Cour européenne qui le dit, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné à plusieurs reprises la France sur cette question-là. On n'est pas les seuls à le dire. Il ne s'agit pas uniquement d'un constat. Après, bien évidemment, qu'il y a des jeunes qui s'en sortent parce qu'il y a de la volonté, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette minorité aussi qui peut-être sera condamnée à l'échec et peut-être qui produira des jeunes gens qui n'auront pas la chance de pouvoir réussir dans ce pays. Donc
dites-moi.
Nous, ce qu'on fait, c'est alerter uniquement nos enfants doivent être considérés comme tous les enfants de la République.
D'ailleurs,
vous savez, je prends un exemple. Par exemple, quand on s'indigne, quand vous avez des gamins qui s'indignent contre l'occupation de la Palestine, des attaques contre les Palestiniens, contre les civils palestiniens, ils sont taxés d'être antisémites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants ne peuvent plus s'exprimer sur tel ou tel sujet. Quand on parle d'islamophobie, on est taxé d'être des victimes ou de se sentir ou de toujours se sentir en tant que victime.
Non, raison pour laquelle tout, je vous pose la question, vous dites, est-ce que vous regrettez un peu, parce que vous en parlez justement, vous dites les voix de la conscience universelle, vous citez Abbé Pierre, vous citez Stéphane Hessel, vous Rosa Parks, Frantz Fanon, Mandela, etc., etc. Aujourd'hui, vous regrettez certaines voix aujourd'hui qui puissent avoir une résonance dans, justement dans les quartiers populaires ? Ça n'existe plus ?
Ça existe à travers certains artistes, mais des intellectuels. Bon, après, on a quand même quelques intellectuels à l'international qui nous soutiennent, qui ont signé l'appel, dont Angela Davis, dont le fils de Steve Biko, qui a lutté. Donc des grandes figures comme ça qui sont à nos côtés. Mireille Fanon, la fille de Frantz Fanon, et tant d'autres. Mais ce que je regrette, c'est ce discours omniprésent à travers les médias dominants qui font du mal à cette jeunesse qui ne se reconnaît pas. Donc comment aimer la France quand la France nous renvoie cette même image de nous on ne serait pas considérés comme des enfants ou comme des gens à part entière ou des citoyens à part entière parce que supposés être musulman ou supposé être banlieusard.
Amel Bentoussi, dernière question. Le 21 avril, donc à 14h, Barbès République, que va-t-il se passer durant cette marche ?
Alors le 21 avril, donc il y aura, c'est un moment aussi d'espoir. Il y a pas, c'est pas, on ne fait pas que dénoncer. On dénonce le racisme parce que pour éradiquer un problème, il faut en parler. Vous savez, le racisme, il y a les racismes. Bien évidemment, il faut en être conscient. Il y a l'islamophobie au quotidien, cette islamophobie dont on n'a pas envie de parler, dont on n'a même pas envie d'évoquer, presque le mot n'existerait pas. Vous savez, il y a une citation de Frantz Fanon qui disait « Ouvrez grand les oreilles, quand on parle des Juifs, c'est qu'on parle de vous ». Aujourd'hui, on pourrait reprendre cette citation et dire « Ouvrez grand les oreilles, quand on parle des musulmans, quand on parle des banlieusards, c'est qu'on parle de vous ».
Merci, voilà. Amal Bentoussi, le rendez-vous est noté.
Et ça se terminera,
le 21 avril.
Oui, ça se terminera par un grand concert avec comme artistes Kerry James, Medine, Sniper, Calbo, Ossem et Medine. Donc voilà, ce sera à partir de 18h30 jusqu'à 22h30. Et ce sera aussi un moment de cohésion, d'espoir. Et j'espère que cette marche va susciter des vocations, que des gens... pour que nos enfants sentent qu'on est à leur côté, qu'on les soutient. Voilà.
Merci, 21 avril. Donc, c'est noté, 21 avril, la grande marche contre le racisme, l'islamophobie pour la protection de tous les enfants. Barbès République, à partir de 14h. Merci, Amal Bentoussi.
Merci
d'avoir été avec nous. On marque la première pause et on se retrouve tout de suite après. Merci, Amal. Merci, à très bientôt. J'ai le temps de présenter nos débatteurs, influenceurs, jingle. C'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
La jeune fille qui est avec nous, jeune femme qui est avec nous, oui, c'est Nirina. Bonjour Nirina.
Bonjour, vous allez bien ?
Très bien, vous ?
Moi ça va bien, merci.
Bien. J'ai vu que vous avez pris des notes et tout, hein. Ça ne rigole pas du tout.
J'ai pris quelques petites notes puisque
étudiante
c'est ma première
intervention. Absolument, étudiante en Sciences Po. J'ai déjà oublié votre nom de famille, oh là là, c'est horrible.
Nirina Malard.
Malard, et pourtant Malard c'est franchement facile à retenir. Hein.
Oui.
Bienvenue.
Deux syllabes, merci.
C'est parti ?
C'est parti.
Richie Thibault.
Bonsoir Adil.
L'électron libre.
un grand plaisir d'être sur Beurre FM.
Co-porte-parole de la PEPS.
Pour une écologie populaire et sociale. Et très heureux ce soir d'avoir débuté l'émission avec Amal Bentoussi, qui est une grande militante très inspirante.
Tout à fait, oui.
Très inspirante. Hein. Ah, c'est ça, c'est formidable.
Et très inspirée ce soir.
Ah ouais, protéger les enfants, se mettre le voile.
Elle pourrait venir débattre.
Alors, tu veux venir débattre.
Elle vient débattre.
Défendre les enfants, se mettre le voile.
Je vous salue. Pour reprendre Médine, elle a su remplir votre grenier à somme.
Ça m'a fait plaisir de commencer sa mission. Formidable.
Journaliste,
tout un discours énorme.
haineux, un discours qui remet en cause l'unité nationale, le vivre ensemble.
Un discours haineux, c'est un peu caricatural, ouais. C'était pas un discours elle dénonce le racisme systémique,
ça veut dire le racisme d'État. La France, ce n'est pas un État raciste, madame. C'est pas un État raciste. C'est une démocratie, la France.
C'est pas parce que c'est une démocratie que ce n'est pas un État raciste.
C'est Ritchie en féminin.
On peut convenir d'un truc, c'est que notre chère Amal, pour reprendre Médine, elle a rempli le grenier à somme de ces deux messieurs qui nous font face.
Le grenier à somme.
Je salue Augustin Varg. Bonjour Augustin.
On a le droit d'être en désaccord, ceci dit.
Augustin, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes chaud ce soir pour démarrer.
En tout cas, on nous a préparé.
Entrepreneur. On lance la pub et on se retrouve tout de suite après.
C'est toi qui nous as mis cette interview.
C'est ça.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah, vous avez vu, vous nous avez fâché notre invité. Voilà, vous c'est avez fâché est, notre invité, Amal Bentoussi. Il ne faut pas tenir de discours haineux. En plus, ça mal. Amal Bentoussi, elle est tout sauf haineuse. Hein.
Je vous le discours qu'elle tient,
elle n'a pas un discours qui fait société, je trouve.
Elle fait un discours.
Elle a un discours qui clive.
Elle dit que l'État.
Qui communautarise le débat entre les musulmans et les autres.
Énoncer des faits, c'est pas être haineux. Il faut d'abord reconnaître que les choses pour mieux les combattre
Le racisme systémique, ça existe.
Elle déclame des contre-vérités. Elle déclame.
Dire que les enfants sont menacés parce qu'ils ne portent pas le voile, c'est une remise en cause de la laïcité, madame. C'est très grave. C'est très grave.
Amal, elle a tenu des propos très cohérents. Elle a convaincu les gens qui sont de bonne foi. Oui. Par contre, la minorité des personnes qui sont de mauvaise foi, comme vous, effectivement, elle les a agacées dans la mesure où la laïcité est de mauvaise foi. Je crois que votre comportement illustre.
Mais on a le droit de ne pas être d'accord et sans qu'on nous traite de mauvaise foi.
À merveille, le mépris et la mauvaise foi qui est la vôtre.
Allez, on va commencer.
On la remercie pour son intervention.
Et puis, elle est dans son combat. Voilà.
Elle est libre de dire.
Allez, s'il vous plaît, on va parler. Elle est dans son combat.
On est loin de Rosa Parks.
L'attaque de l'Iran contre Israël, vous savez quoi? Beaucoup, hein, y compris l'interview ce matin sur BFM TV, RMC. Le président de la République, Emmanuel Macron, redoute évidemment l'escalade. Washington redoute et ne veut pas l'escalade. Est-ce qu'on peut parler d'un embrasement, effectivement, qui est possible? Parlons-en justement, parce que on était quand même à deux doigts de frôler la catastrophe quand même. Karim Maloum.
Deux leçons à retenir de ce qui s'est passé dimanche.
Allons-y.
Ce que j'ai écrit et développé un peu partout sur plusieurs médias, c'est qu'une première leçon à retenir, c'est que l'Iran, pour la première fois, a attaqué un pays.
C'est vrai, c'est la première fois.
Et l'a attaqué avec plus de 300 roquettes, missiles balistiques, ont pu causer des dizaines de milliers de morts, parce que ce n'était pas visé à un seul endroit, ce n'est pas une caserne, ce n'est pas un endroit, c'était un terrorisme de masse. Heureusement, la coopération était là, Israël était... L'Occident a soutenu Israël, les États-Unis, la France, l'Angleterre ont intervenu pour intercepter tous ces engins. La France, elle était en Jordanie, les États-Unis, bien entendu. Il ne faut pas oublier aussi le Hezbollah, le djihad islamique et que les Houthis. Ils ont tous participé. Au fait, l'Israël, de dimanche, a été attaqué de 6 points. Et l'Israël a riposté. Au fait, c'est l'international islamiste qui a attaqué Israël. C'est l'international islamiste. Le monde démocratique.
Vous êtes convaincu de ça?
Absolument. Oui. Ah oui. C'est l'Iran qui a organisé et c'est le Hezbollah. Vous avez le Hamas, vous avez le djihad islamique, vous avez les milices en Syrie, en Irak, ont toutes participé. Mais concentration a été faite sur les roquettes qui venaient d'Iran. Le deuxième point. Heureusement, l'Iran a montré son visage. Et il est temps que la communauté internationale, surtout les pays démocratiques, de tout faire que l'Iran n'arrivera pas à produire l'arme nucléaire. Tout faire. Il faut faire toutes les sanctions inimaginables. L'Iran a déclaré la guerre à la démocratie et les démocraties doivent aussi lui déclarer la guerre. Pas aller l'envahir. Des sanctions, lui interdire de construire ses armes nucléaires, la désarmer, c'est une menace pour le monde. Et c'est le président de la République et d'autres pays ont peur de ce qui se passe. Parce que toute la nébuleuse islamiste qui s'est installée en Europe, ils peuvent les actionner.
Alors, parlons-en. Alors, qui veut prendre la parole? Richie Thibault, bon. Et ensuite après Nerina Malher, et ensuite Malher, excuse-moi.
Trois choses. La première chose, pour répondre aux propos qui ont été tenus, pour le moment, les dizaines de milliers de morts, ils sont du côté de la bande de Gaza, ils ne sont pas en Israël. Et ils ne sont pas du fait de l'Iran.
Ensuite,
non mais vous êtes incroyable.
Laissez-le
c'est honteux vos propos.
Laissez-le finir et après on pourra. Laissez-le
avec vos vieux pensifs, c'est honteux.
Bon, laissez-le finir.
Ensuite, moi, j'ai aucune sympathie pour les théocraties, qu'elles soient du côté d'Israël ou bien de l'Iran. Moi, j'ai aucune sympathie.
L'Israël est une théocratie ?
Non, mais on va pas y arriver si vous m'interrompez. Que, non,
laissez-le finir. Vous a pas interrompu, laissez-le
finir. Soyez civilisé, comme dirait tonton Eric. Bon, moi, je n'ai aucune sympathie pour ces régimes-là. Néanmoins, aujourd'hui, il faut mettre les termes. Moi, je pense que Israël souhaite généraliser et conflictualiser le Moyen-Orient afin de génocider bien tranquillement le peuple palestinien. Et c'est en ce sens qu'ils sont dans une logique belliqueuse et provocatrice. Voilà la première chose. Ensuite, il faut contextualiser. Contextualiser pour dire que cet événement il survient suite à un bombardement de la part de l'État d'Israël sur le consulat et la résidence de l'ambassadeur iranien en Syrie. Oui. En ce sens, on peut dire que l'Iran a répondu, a riposté. Alors après,
donc vous justifiez l'attaque.
Je ne dis pas que j'encourage et si que vous je dis pas que c'est légitime. Je dis que le lendemain du 7 octobre, j'ai entendu tout l'Occident dire « Oui, mais Israël a un droit légitime à se défendre. L'Iran n'aurait-il pas ce droit-là ? » Moi, je pense que si on veut le droit international et son respect, il faut cesser le deux poids deux mesures.
Nerina Malard.
Oui, alors c'est vrai que c'est une question complexe. La tension est exacerbée. Déjà, vous avez dit 300 tirs, plus de 300 tirs. C'était 200. 99% des tirs ont été interceptés.
Certes, heureusement.
Oui,
c'est clair.
Personne n'est pour la mort ici. Certes, ça reste une démonstration.
Et ni pour la riposte.
L'Iran semble a priori vouloir clore l'affaire. Ce que l'Iran a dit, l'Iran ne souhaite pas nécessairement la guerre, puisque, comme notre ami Thibault l'a dit, l'Iran se justifie par le principe de légitime défense. Et ça, c'est un principe qui est garanti par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et dans ce sens-là,
Israël n'a pas attaqué la Syrie. C'est pas l'Iran, si. C'était en Syrie, c'était un annexe terroriste.
Thibault vient de le dire.
Ils ont visé des positions iraniennes, effectivement, à Damas.
Et puis, a priori, justement, je venais de dire que l'Iran ne souhaitait pas faire escalader le conflit. On a les chefs du G7 et les pays de la région d'Arabie Saoudite qui, eux aussi, n'ont pas intérêt à faire escalader le conflit et qui appellent à une retenue. La plupart des acteurs ici présents demandent une descente du conflit. On peut donc s'attendre par la suite à des sanctions diplomatiques, à un embargo économique.
Ah, il va y en avoir, c'est
le
sûr.
Dilemme, finalement, ce sera qu'est-ce que Netanyahou va faire après.
Et on peut compter sur l'Iran pour désescalader le problème.
Oui.
Je pense que c'est un vrai souci. Enfin, dans ces cas-là, moi, ce qui me pose problème, tout a été à peu près dit, même s'il y a des choses, des contre-vérités. Mais je pense que la riposte. Moi, j'ai peur des représailles, de la riposte israélienne avec ça, parce que ça va être un enchevêtrement de représailles. Et je pense qu'à un moment donné, Israël va pas se laisser faire. Malheureusement, il va y avoir de la surenchère du pire, encore une fois.
Et la faute
Washington
tente
à évidemment de calmer le jeu.
Mais bien sûr, tout le monde.
Washington, la France encore ce matin, y compris Emmanuel Macron, le président de la République, effectivement, font intervenir la diplomatie pour éviter
la diplomatie iranienne. On en parle. On a tellement de moyens de sanctions à faire financières. Diplomatique, on peut faire pression et étouffer l'Iran, aider surtout le peuple iranien, aider le peuple iranien qui se bat tous les jours pour leur démocratie, aider les femmes iraniennes qui sont en train de mener la plus grande révolution.
C'est pas le sujet, là. On n'est pas
féministe.
Du tout dans le même sujet.
Quel est le rapport
des idées. Mais pour terminer, justifier l'attaque d'un pays contre un pays. Parce que Israël a visé des terroristes, même pas en Iran, c'était en Syrie, c'est une annexe terroriste. C'était pas l'ambassade, c'est un mensonge que vous développez.
Si.
Attendez.
Hop, vous nous ramenez la Palestine à chaque fois, justifiez le crime.
Je parle. On va s'appuyer sur simplement le factuel. Le factuel, c'est ils ont touché des généraux, des diplomates, et que l'Iran s'est senti évidemment attaqué.
C'est une annexe activisée terroriste en Syrie.
C'est pour ça qu'ils ont riposté
en Syrie.
Alors, Réchit Thibault.
Il y a une contre-vérité qui est assez consternante. Aujourd'hui, notre objectif commun, ça doit être celui de la cessation du feu, ça doit être celui de la paix. Or, là, vous êtes en train de jeter de l'huile sur le feu et c'est tout à fait condamnable. Moi, je pense que face à cette généralisation des conflits, l'outil, la solution, c'est le droit international. Or, effectivement, comme ça a été rappelé brillamment par Nerina, les instances internationales et le droit international peuvent permettre de résorber ce conflit. Comment on le fait ? On le fait en garantissant des garanties, en donnant des garanties de sécurité mutuelle aux deux États. Et il faut que la communauté internationale, comme elle le fait d'ailleurs,
en gardant l'arme, c'est à gouverner Gaza.
Non mais
je vous pose une question.
Mais vous me dites que je parle de la Palestine à chaque fois, puis vous me parlez toujours du Hamas et des terroristes. Soyez un peu cohérent, s'il vous plaît. J'ai vraiment l'impression depuis tout à l'heure, je sais pas, mon inconscient me dit que j'ai l'impression d'avoir l'hologramme de Chalgoumi en face de moi.
Et ce sont des propos racistes que vous tenez. Parce que là, c'est vraiment vous êtes ridicule. Vous êtes un raciste.
Ne rentrez pas dans
le racisme. Vous êtes un raciste.
Ne rentrez pas dans le racisme. Ne rentrez pas dans le racisme. Non, arrêtez, monsieur Karim, qu'est-ce qui vous arrive?
C'est Karim qui m'a dit en préambule de l'émission que c'était son ami et qu'il était très proche de sa ligne politique.
Ne jouez pas à ce petit jeu. C'est nul la comparaison avec Chalgoumi.
En plus, elle est tellement facile.
Adressez-vous à lui en personne plutôt que de renvoyer à laissez monsieur Chalgoumi tranquille.
Si ça vous a blessé, j'en suis navré. Mon intention n'était pas telle. N'était pas telle. Bon, en tout cas, moi je trouve que ce qui est dangereux, c'est que vous êtes sur une pente glissante en tenant des propos extrêmement belliqueux. Vous êtes sur un alignement vis-à-vis d'un État qui commet des crimes et qui est condamné par le droit international. En ce sens, eh bien, je pense que vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie pour garantir la paix.
On marque une pause. On se retrouve tout de suite après. Et on se passe au second sujet. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h41, si vous venez de le rejoindre, sachez-le. Ici, les informés, c'est avec Nirina Malard, avec Richie Thibault, avec Karim Maloum et enfin avec Augustin Vargue. Second sujet, tiens, le meeting, vous savez quoi, on va aller direction Montpellier, où un meeting de la France Insoumise de Manon Aubry à Montpellier. Une partie de la foule a scandé Israël assassin ou encore Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi, pour bien parler, n'est pas à toi aussi. Alors, beaucoup ont considéré, il y a beaucoup de personnalités politiques qui sont montées au créneau. Et Manon Aubry a tenté d'essayer de calmer un peu la chose. Richie Thibault.
Oui, moi je trouve vraiment regrettable la proportion que ces deux slogans ont pris sur le plan médiatique, dans la mesure où il s'agit de deux vérités factuelles. Alors après que sur la forme, on n'apprécie pas la manière dont c'est énoncé, en réalité, il s'agit vraiment d'énoncer des vérités factuelles. Alors Israël assassine, c'est factuel. Et les chiffres sont des données avérées. En 6 mois, Israël a tué plus de 30 000 personnes dans la bande de Gaza. Donc en ce sens, on peut qualifier l'État d'Israël d'assassin. Après, certains peuvent être dans le déni. Ensuite, Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Là aussi, peut-être que sur la forme, le mot Israël, casse-toi, ça peut choquer, etc. Néanmoins, factuellement, la Palestine n'est pas à Israël. Et là, je pense que si on est de bonne foi, on sera d'accord sur ces faits-là. Et donc, je pense qu'on donne une proportion, mais vraiment exagérée, à ces deux slogans. Et cette proportion exagérée qui est donnée à ces deux slogans est révélatrice du degré de haine et du mépris d'une certaine partie de la population française, ou du moins de la classe politique française, à l'égard du peuple palestinien. Et c'est tout à fait regrettable, car Karim, les Palestiniens méritent tout autant notre dignité que les Israéliens.
Karim Alou.
Les propos ont été développés dans un meeting qui sont choquants. C'est des propos dangereux, tout simplement. Parce que, elle remet en cause l'existence d'Israël une nouvelle fois. C'est un discours antisémite. Ça, c'est un point.
Mais il est où l'antisémitisme, là?
Je ne vous ai pas coupé. Deuxième point, vous annoncez un chiffre de 30 000.
Après, vous lui répondrez, juste l'antisémitisme.
Vous annoncez un chiffre de 30 000, je ne sais pas qui est. Il faut citer vos sources.
Reconnu par les Nations Unies, monsieur.
Jamais. Les Nations Unies n'ont jamais reconnu aucun chiffre. C'est un chiffre du ministre de la Santé du Hamas. Vous reprenez à votre compte la propagande islamiste de Hamas. Maintenant, le problème qui se pose en Palestine, aujourd'hui, on a un gros problème. Ce que jamais, dans ces meetings de la France insoumise, ne sont mentionnés. Jamais le Hamas n'a été condamné comme organisation terroriste. Il la considère même comme une organisation de résistance. Et donc, c'est normal, les gens qui viennent à leur meeting et veulent que toute la Palestine, tout le territoire appartient à la Palestine, donc c'est la disparition d'Israël. Donc la France Insoumise assume une grande responsabilité depuis le 7 octobre à vouloir tout mélanger. Ils se retrouvent avec des gens dans leur meeting qui réclament haut et fort. C'est un discours antisémite de conduire tout le territoire appartient à la Palestine. Ça veut dire il y a la disparition d'Israël. C'est la définition même de l'antisémitisme.
Même si le mot n'a pas été dit, ils n'ont pas parlé de disparition d'Israël.
C'est en filigrane.
Dans le meeting prévu pour jeudi de M. Mélenchon à Lille, sur l'affiche, c'est marqué tout le territoire, c'est 100% palestinien. Et l'Israël a disparu. Ça s'appelle l'antisémitisme.
Je ne vous ai pas oublié. Alors, Augustin Vargue.
C'est quand même très gênant, puisque Manon Aubry a dû s'excuser, ou en tout cas être très embêté des slogans dans le meeting. C'est vrai ou pas?
J'ai pas entendu ça.
Mais vous rigolez.
J'ai pas entendu ça. Bon. C'est quoi la source? Okay. Pour reprendre monsieur.
Ben c'est
son intervention.
C'est son intervention. Elle est intervenue pour calmer un peu.
Alors vous aussi, vous êtes comme Karim Malou?
Non, c'est des slogans de meeting. Après, dans la ferveur des meetings, on a envie de faire ce genre de phrases. C'est pas surprenant. Je pense que, par contre, ceci dit, je pense que la France insoumise est le cheval, veut être le cheval de Troie d'Israël. Comme elle est le cheval de Troie de notre société française, en fait.
On peut se poser juste une question. Et pourquoi c'est seulement, uniquement dans les meetings de la France insoumise qu'il y a ce genre de propos? Pas chez Renaissance, les socialistes, les communistes, les verts, il n'y en a pas.
La France insoumise est en train de communautariser tous les débats de nos sociétés en Europe et ailleurs qu'en Europe.
Rien que ça, ils sont forts. Ouais. Hein.
Alors, Nerina Malard.
Moi, je pense que Thibault l'a brillamment évoqué. C'est un fait. Israël assassine factuellement. Il y a plus de 30 000 civils qui sont morts. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais si vous saviez, Israël utilise un système basé sur l'intelligence artificielle pour multiplier ses cibles. Sauf que ce système, il ne discrimine pas les civils et les militaires, ni les militaires. La doctrine d'Israël, c'est détruire les lieux de pouvoir, détruire les lieux de savoir, détruire les lieux de culture palestinienne. C'est une logique d'annihilation, de préméditation.
C'est quoi les lieux de pouvoir à Gaza? C'est quoi les lieux de pouvoir, madame?
Les lieux de pouvoir?
Oui, je vous pose un exemple.
Gaza est totalement bombardé.
Non, mais vous dites ici les lieux de pouvoir, les pouvoirs du Hamas?
Le pouvoir du Hamas.
C'est Hamas qui gère.
Les souterrains.
Le Hamas est une force en Palestine, certes, mais est-ce qu'il y a une contre-force, à part le Hamas, en Palestine, qui est suffisamment puissante pour se battre contre Israël?
Donc pour vous, le Hamas, juste pour vous, est une organisation de résistance qui défend les Palestiniens. Vous savez pas que le Hamas est le pire ennemi de des Palestiniens?
Pardon?
C'est le premier ennemi des Palestiniens, le Hamas.
J'en suis pas sûr.
Moi je le dis, c'est carrément le
toujours dans l'exagération.
C'est le premier ennemi des Palestiniens.
En tout cas, ils font pas du bien. Ils font pas du bien aux Palestiniens.
Ennemi, je suis pas sûr que ça soit le
bon. Moi je dis, c'est le premier ennemi des Palestiniens.
Ils leur donnent pas d'argent. Ils leur donnent pas d'argent, par exemple les malades et tout ça. Enfin, on est d'accord.
Bien sûr. Non mais on peut tout dire, évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais vu le contenu du contexte aujourd'hui, évidemment, qui est, vous l'apprends pas, on le vit tous, hein, donc en direct et en temps réel.
Dans l'organisation, dans la charte du Hamas, juste dans la charte du Hamas, c'est la destruction d'Israël et tuer le maximum de juifs.
Ce n'est pas en répétant mille fois des mensonges que vous allez en faire des vérités, mais vraiment factuellement, parce que, et là sur la question du Hamas, en l'occurrence, en disant que le Hamas est l'ennemi des Palestiniens, enfin c'est assez gros, moi, que faut condamner le Hamas politiquement, c'est tout à fait justifié, et faites-le avec grand plaisir.
Mais le Hamas, il prête assistance aux Palestiniens,
s'il vous plaît,
ou pas?
Par contre, sur
est-ce
moi,
que c'est
mais quelque chose d'extrêmement grave qui m'a choqué, parce que moi, durant la Seconde Guerre mondiale, j'ai des ancêtres qui ont subi une tentative d'extermination aux côtés du peuple juif en Europe. Les Juifs ont vécu la Shoah, ils ont vécu l'antisémitisme du Troisième Reich, et je ne peux pas supporter que vous compariez l'antisémitisme qui est une gangrène pour notre société, comme le disait très justement Frantz Fanon, et Amel Bentoussi l'a repris en début d'émission, à ce qui se passe en Palestine vis-à-vis de l'État d'Israël. Ce n'est pas possible. Dire que ce qui se passe en ce moment, et ce qui s'est passé en l'occurrence au meeting de la France Insoumise avec Manon Aubry, c'est des actes d'antisémitisme, c'est extrêmement grave, monsieur, c'est une insulte aux victimes et à la mémoire de la Shoah.
Non, si ça avait été des actes d'antisémitisme, aujourd'hui l'État aurait réagi.
Mais bien sûr,
il y aurait une plainte.
Croyez-moi que il y aurait eu une grosse plainte et une série de plaintes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas eu de plainte.
Adil, moi je pense que.
Il n'y a pas eu de plainte.
Je pense
ce jour, il n'y a pas eu de plainte.
En 15 secondes.
Parce que ça échappe à la loi.
Non, mais monsieur, vous confondez. Vous confondez antisionisme et antisémitisme.
Ah non, 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 non.
Non, mais je vous explique pourquoi. Parce que dans les rues.
Il va vous répondre,
oui, mais dans les rues de Paris, depuis 6 mois, il y a des juifs qui crient Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi, et qui prononcent ces slogans-là. Et ils sont juifs, monsieur. Vous allez me dire qu'ils sont antisémites?
Il y a des Israéliens qui sont contre Netanyahou, qui sont contre l'armée.
Ce qui me gêne, c'est que vous voulez à tout prix rester dans l'antisémitisme des années 40. Que c'est quoi l'antisémitisme?
C'est la haine des juifs.
Laissez-moi. C'est la haine des juifs. Et le Hamas que vous défendez, vous le considérez comme une résistance.
Je ne défends pas le Hamas.
Il a toujours dit qu'il ne défend pas le Hamas.
Mais rien n'empêche, c'est de la résistance.
Il l'a dit.
Pour eux, c'est de la résistance. Donc ils défendent. Dire que le Hamas est une organisation de résistance, donc il se bat pour la Palestine, quelque part, si vous le défendez.
Le FLN,
Hamas est une organisation criminelle.
Le FLN était considéré comme une organisation terroriste.
Restez à votre place sur les années 50. Je dis.
Mais pourquoi vous l'avez tous fait de manière ad hominem?
Le Hamas est une organisation criminelle. C'est une organisation islamiste. Dans son charte, c'est la liquidation d'Israël, tuer le maximum de juifs.
ça s'arrête là.
Ah, d'accord. Si, ah, d'accord. Alors, il, là, il alors, là, alors ça, vous répétez, répétez aux auditeurs que dans la charte du Hamas, il y a écrit le Hamas absolument. A pour but de tuer des juifs.
Le absolument. Hamas n'a jamais dit non, ça. Le là, Hamas grave, n'a jamais accusation. Dit que son objectif pas... était de tuer un maximum
vous
de juifs.
Qu'est-ce que vous répondez
bah, c'est pas culture, c'est... donc.
Bah, c'est un mensonge.
Il faut lire la charte.
Où est-ce que le Hamas a dit ça?
La charte dit qu'elle est pour la disparition de l'État d'Israël, mais encore une fois, vous confondez la disparition d'un État avec la disparition d'un peuple. Et ça, c'est une erreur factuelle extrêmement grave.
Alors, je reprends effectivement, on parle souvent, le Hamas parle, fait référence souvent à l'État. L'État d'Israël. Ah, et non pas, ça, la, et non pas aux, évidemment aux Israéliens eux-mêmes.
Les Israéliens vont résister, donc il faut les liquider. Il faut qu'on appelle un chat un chat.
On pourra. Non, mais moi, je suis tout à fait disposé. Les opinions divergent. On est là pour échanger. Et c'est le but, désinformer. Et je ne veux pas qu'on se mette en retard. C'est le quoi de neuf. C'est parti.
Les informés. Le quoi de neuf.
Comme vous ne soyez pas d'accord, c'est pas. Attendez, chacun évidemment, défend son analyse. Et c'est le but. Michel Taub, bonjour. Comme chaque lundi, vous êtes avec nous. Comment ça va, mon cher Michel Taub?
Très très bien. Bonsoir Adil, bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Vous êtes éditorialiste. Comment?
Et comme il y a de l'ambiance sur votre plateau, je vais apporter un peu de trêve.
Exactement. Je voudrais juste vous présenter éditorialiste sur les chaînes de télévision, mais également aussi le directeur fondateur de d'Opinion Internationale à Média en ligne. Je vous lance tout de suite. Vous allez nous parler. Eh bien, vous savez quoi, des JO. C'est parti.
Absolument. En fait, je prends un petit peu d'avance, mais mercredi, on sera à 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu ce matin chez nos confrères de FM l'interview du président de la République dans le Grand Palais, qui est un des joyaux de l'architecture française, Art Nouveau, qui sort de plusieurs années de réflexion. Et en fait, je voulais profiter de ces très belles images, de ce J-100 qui sera célébré mercredi partout en France, pour en fait dire que je suis très pressé que ça démarre, et surtout, espérer que les Français seront à la hauteur de ce rendez-vous historique. C'est le plus grand événement qu'on a jamais organisé sur le sol français. Et j'espère que, alors on peut être un petit peu utopique, qu'il y aura une forme de trêve, une trêve syndicale, que les syndicats qui ont déposé des préavis de grève ne feront pas de grève, qu'il y aura une trêve politique, parce que beaucoup de politiques déjà critiquent les Jeux Olympiques dans les problèmes sécuritaires, les problèmes de coûts. Et enfin, pourquoi rêvons encore plus, une trêve diplomatique. Le président de la République a dit qu'il y travaille pour essayer d'obtenir dans des zones de conflit, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, je pense à la République démocratique du Congo, où vous avez des dizaines de milliers de morts chaque mois. Espérons qu'il va y avoir une trêve pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Alors je suis très conscient que c'est très utopique, évidemment, mais que la fête soit au rendez-vous, et à J-100 de ce grand rendez-vous, j'espère surtout que les Français seront au rendez-vous de ce très très grand événement.
Vous avez raison, Michel Taub, de le rappeler avant tout, parce que les JO, c'est d'abord la fête, évidemment. Il ne faut pas oublier l'esprit de la flamme qui nous anime tous, c'est-à-dire de faire la fête et de pouvoir échanger de façon...
Voilà, et puis aussi c'est une fantastique opportunité pour tous les Français. Il y a des départements comme la Seine-Saint-Denis qui vont beaucoup profiter en termes d'infrastructure. Le village olympique se situe en Seine-Saint-Denis. Il y a évidemment Paris, mais il y a aussi la Polynésie. Il y a Marseille qui va accueillir les épreuves de voile. Enfin, franchement, ce sera la fête, et j'espère que surtout nos politiques mettront un peu entre parenthèses leur querelle et soutiendront ce très grand événement.
Merci Michel Taub. À la semaine prochaine, sans faute.
Avec grand plaisir. Merci.
Merci, au plaisir, à bientôt. Michel, Richie Thibault, juste un petit message.
Oui, une annonce de manière très courte pour dire que demain à 20h au 13 rue de Saint-Œil dans le 5e arrondissement de Paris, le média Au Poste organise un débat que j'animerai avec 6 représentants des différentes listes de gauche aux élections européennes. La France Insoumise, les écologistes, le Parti des Travailleurs, le NPA, Nouvelle Donne et bien d'autres. Venez nombreuses et nombreux, c'est gratuit au 13 rue de Saint-Œil à Paris.
Dans l'entre-soi.
Merci. Merci. Mais non, il prend l'ouverture là. Merci, Richie Thibault.
Encore une fois, les chiens aboient, la caravane
attendez,
passe.
Il est dans l'entre-soi.
Je parle de partis. Je parle pas des participants, je parle des partis.
Merci, Augustin Vargue.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci, Nerina. À bientôt aussi, Mala.
Avec plaisir.
Bilal Nedman, tout de suite, c'est Time Sport. Ensuite, c'est Vanessa. Toujours, et ensuite, demain matin, c'est Kim. À demain, avec autant de plaisir.
Et surtout, on ne lâche rien.
Voilà, exactement.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.